Money Time.
Money Time, votre émission sportive tous les lundis de 19h à 20h sur Prune 92 FM et sur prune.net.
Money Time.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue sur Money Time, l'émission sportive de Prune sur le 92 FM et sur le www.prune.net partout sur la planète. Alors, ce soir Money Time saison 4, épisode de retour à l'antenne avec une belle farandole de chroniqueurs pour m'accompagner. On va commencer dans le désordre avec toi mon Lulu, comment tu vas bien ?
Salut, ça va très bien Matt, bonjour à toutes et à tous.
Et à côté de moi, c'est Jean-Marc.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous.
On n'oublie pas Charles.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous.
Et en régie, c'est Maëlan.
Salut à tous.
Alors, bien content de vous retrouver en direct pour la reprise de Money Time. Donc ce soir, au sommaire, pour parler de toute cette actualité, on démarrera avec du football dans le Prune Football Club. Retour sur la Ligue des Champions, la Ligue 1 et les championnats étrangers. Dans la page sport d'hiver, fin des Coupes du Monde de biathlon et de ski alpin, on fait le bilan. Le score en stock, c'est les résultats de nos sports nantais. La page handball avec Hashtag, bien sûr, où on parlera du H, évidemment, et de l'équipe de France féminine en préparation pour les JO de Tokyo. Et pour conclure dans notre rubrique multizone, du rugby, du cyclisme et un peu de golf. Voilà, le sommaire est lancé. On y va tout de suite, Maëlan, c'est le Prune Football Club.
Money Time. Le Prune Football Club. FC Nantes, Ligue 1, Champions League, foot étranger et bien plus encore. Le Prune Football Club. Money Time. Money Time, votre émission sportive tous les lundis de 19h à 20h sur Prune 92 FM et sur prune.net.
Et dans cette page football, les amis, on commence et on revient sur les qualifiés et les affiches des quarts de finale de la Champions League. Avec toi, Lulu.
Ouais, alors pour les quarts de finale, on aura un magnifique PSG-Bayern.
Ouais, le Bayern qui a donc éliminé...
La Lazio.
Voilà. Ouais, c'est tranquillement. Il y a une grande différence quand même d'écart entre le Bayern surpuissant et la Lazio.
Ça reste le vainqueur de l'édition précédente, donc évidemment...
Résultat logique, sans suspense.
Ensuite, on aura donc le Real Madrid contre Liverpool. Donc là, vraiment un beau match aussi en perspective. Deux équipes qui sont pas forcément dans la meilleure forme de leur vie cette saison.
Effectivement, c'est quand même Liverpool qui a gagné la Ligue des Champions en 2019 et le Real 2018. Donc en soi, on est sur deux équipes qui étaient des grandes puissances, des grands noms du football.
Mais l'expérience.
Mais qui ne sont pas forcément dans des formes très impressionnantes. Hein, depuis le Real, depuis 3 ans, depuis le départ de Ronaldo, on sent qu'ils sont un peu moins là. Liverpool, cette année, ça perd beaucoup de fois Anfield. Ils sont moins présents en championnat, ils sont que 7e. Hein, donc ils ne sont même pas qualifiés pour l'instant potentiellement en Ligue des Champions. Ça va être un gros choc, de gros noms. À voir, ça va être très serré et ça sera sans doute... ça se jouera dans les détails.
Grosse affiche. Ensuite, on aura Manchester City contre Dortmund. Alors, là, Manchester City qui vraiment réalise une très très bonne saison en championnat. Dortmund, qui balbutie un peu son jeu cette saison. C'est très compliqué.
On sent que de toute façon, que Dortmund, offensivement, c'est très fort avec Erling Haaland. Hein. De toute façon, on en parlera encore des années de ce garçon-là. Mais qui, défensivement, c'est une équipe qui est très joueuse et qui laisse beaucoup d'espace derrière. Et ça va être donc contre City, qui cette année est défensivement très très solide. Ça peut être très compliqué pour Dortmund, mais ça sera toujours, on sait toujours, c'est la magie du football, on sait jamais.
Et offensivement aussi, Manchester City, on sait que c'est très costaud, alors ça risque d'être compliqué.
Surtout avec le retour d'Aguero maintenant, qui revient de blessure depuis du Covid depuis quelques matchs. On sent qu'ils reviennent tous, les joueurs qui étaient un peu blessés. Et en plus, avec leur assise défensive, maintenant, ça va être très très solide. Et Dortmund, ça va être compliqué pour eux.
Et le dernier match de ces quarts de finale, Porto qui a éliminé la Juve contre Chelsea qui a éliminé l'Atlético.
Ouais, c'est un peu la surprise, hein, Porto. Ils étaient dans le groupe contre City. On se disait, bah, par exemple, même il y en a qui disaient, ouais, Marseille, on sait jamais. En début de saison, ils peuvent faire quelque chose contre Porto. Mais on voit que c'est Porto, c'est vraiment un club qui a des fondamentaux, qui a une vraiment qui est structuré, qui a une bonne politique sportive. Et ça fait toute la différence dans ces matchs. On sent que la Juventus. Bah, ces dernières années, ils sont présents, mais en Ligue des Champions, bah, ça marche pas avec Ronaldo. Et là, Porto a franchement a joué son va-tout et belle victoire et belle qualification.
Ouais,
pour Porto.
C'est l'affiche qu'on n'attendait pas, hein, parce qu'on on aurait plutôt parié sur un Atlético
Juve.
Atlético Juventus. Hein.
Et là,
ouais, moi je l'avais, j'avais confiance en Sergio Conceição.
Ah, l'ancien Nantais.
L'ancien Nantais.
Ouais, donc excite Gladbach, hein, des huitièmes, l'Atalanta Bergame, ouais, qui avait été jusqu'en quart, hein, l'année dernière et qui avait donné du fil à retordre au Paris Saint-Germain. Et puis, on l'a dit, la Lazio, hein, qui n'a pas pu rivaliser face au Bayern. Hein, 6 buts dans la besace sur ce tour de Champions League.
Et alors là, Matt, bien malin celui qui dira qui sera qualifié en demi-finale, parce que c'est vraiment...
On peut donner la projection quand même, puisqu'on l'a déjà, ainsi que la projection sur une finale.
Bah,
ouais,
le tirage va être encore dirigé. Hein,
Non, le tirage est fait. On sait déjà que Bayern-PSG, ça rencontre City-Dortmund.
Ah d'accord, on a, oui, ok. Bon,
Liverpool rencontrant, le vainqueur de Liverpool-Real rencontrant Porto-Chelsea. Ouais.
Donc il y a une partie qui est très ouverte quand même. Hein, parce que là, on n'est pas sur 4 équipes qui sont vraiment dans des fulgurants exceptionnels comme le PSG ou le Bayern et City. Là, on est vraiment sur un tirage, même Porto peut y croire en soi. Ouais. Donc,
c'est vrai que ça serait beau, hein, éliminer,
ça serait très ouvert.
Pour le PSG, éliminer le Bayern, City, Dortmund et prendre le Real, imaginez en finale.
Bah là, c'est un vrai parcours
serait,
de Ligue des Champions.
Ça pas
le, le parcours pour Paris de rêve, c'est le Bayern, City
et le Real.
Et le Real.
On en est loin. On en est loin,
mais c'est surtout que ça peut
Ils ne peuvent pas croiser le Real avant la finale, par exemple, ni Liverpool.
Mais après, ça peut relégitimer par rapport à l'année dernière où certains disaient ouais, ils ont un parcours facile, c'est pour ça qu'ils sont qualifiés. Donc là, s'ils font un gros parcours, ça peut vraiment. Ils vont entrer dans la cour, mais là, c'est des très très grands et ça fera. Ça peut faire la différence.
C'est des doubles confrontations en plus.
Des grands.
L'année dernière, c'était un Final 8 sur un match.
Ouais. Là, bon, step by deux step, fois. Les garçons, hein, pas d'enflammade. Hein. Il y a déjà le Bayern sur deux matchs avant de vous projeter sur une finale face au Real.
Il y a déjà la Ligue 1. Ah bon.
Le Bayern est en favori.
La Ligue 1, bah on y arrive. Avant de se projeter sur la Champions, on revient 30e journée de championnat de France de Ligue 1 avec l'affiche du dimanche. C'était le Paris Saint-Germain qui recevait Lyon, le deuxième contre le troisième.
Et oui, c'était un match très gros match, hein, de ce
top
championnat.
Spin, comme on dit, le choc.
Et c'est un peu ça. Hein. Les dernières années, ça reste quand même Lyon qui sont les deux gros clubs en pierre de Ligue 1, hein, qui font rayonner en Ligue des Champions la France. Et bah, finalement, beaucoup on pouvait prétendre à ce que Lyon rende une meilleure copie que ça, parce que le PSG finalement a complètement déroulé. Lyon qui est quand même qui était censé être une équipe qui a été présente contre les gros. En Ligue des Champions ou contre le PSG, hein, c'est l'équipe qui a mieux le réussi d'ailleurs que sur le
Leur a peut-être manqué justement une Ligue des Champions pour avoir des gros matchs comme ça, parce que là 4-0 très rapidement et puis c'est plié.
52 minutes après c'est plié. Après on peut se dire qu'est-ce qu'ils ont manqué, mais finalement c'est l'impact physique.
Ouais, et puis le PSG était au-dessus, on l'a senti directement. Enfin voilà, il y a une classe d'écart en fait entre
on
ces deux
dit,
équipes, même si au niveau du classement, voilà, il y a pas tant de points qui les séparent cette saison, mais sur le niveau de jeu, voilà, il y a une classe d'écart quand même. On l'a vu, 4-0, il marque 2 buts, mais parce que le PSG lâche aussi.
Après, de toute façon, en 2021, on le voit très bien. Lyon qui avait fait une excellente début de saison jusqu'à la mi-saison, hein, et qui il y a le classement de la deuxième partie de saison. Pour l'instant, c'est Monaco qui a 32 points. PSG qui est à 28, 27 pour Lille et 24 pour Lyon. Donc on sent que Lyon, en deuxième partie de saison, ils sont moins présents. Ils perdent des points un peu par-ci par-là. Ils sont toujours là. Hein, ils sont qu'à 3 points de Lille et du PSG. Mais on sent que ça se complique pour les Lyonnais et que Paris, là, une fois qu'ils ont pris la tête, ils vont peut-être plus la lâcher.
Ouais. 8 matchs à jouer encore, donc potentiellement 24 points dans la besace pour chaque club.
À noter juste, Matt, que Mbappé atteint 100 buts. Ouais. Et du coup, il était plus rapide que Lionel Messi,
avec son doublé de hier soir, ça fait 100 buts.
C'est pas les mêmes championnats. Hein.
C'est, oui, mais bon, c'est quand même à noter. Quoi. Voilà, oui. Il est souvent critiqué cette saison, mais ça reste quand même...
C'est peut-être plus difficile de marquer en France, hein, tu sais, Charles.
Ça reste quand même...
C'est plutôt les attaques qui ont le dessus sur les défenses en France.
Le meilleur championnat pour marquer des buts, ça reste l'Allemagne.
Alors, ça, c'est un des jeux très ouverts, ça, c'est sûr.
Oui. Mais donc, bon, toujours critiqué, Mbappé, mais il répond toujours présent.
Est-ce que
quand
ça
même
veut dire, Jean-Marc, que tu considères que Lewandowski n'est finalement pas un si grand attaquant que ça?
On non, reviendra non, sur Lewandowski.
Oui, on aura le
record
temps.
De buts, peut-être pour cette année, le fameux record de Gerd Müller. On reste bien sûr dans l'Hexagone et on va parler de la fin du fantastique résultat des Crocos en déplacement à Pierre Mauroy qui font tomber le leader.
Juste incroyable cette défaite de 1. Alors bon. Évidemment, Nîmes s'est fait après dominer comme c'est pas permis, mais ils arrachent une victoire complètement improbable, mais tant mieux pour eux.
Qui les place en position de relégable, un point de Lorient.
Non, même pas,
ils sont plus dégagés devant Lorient. 17.
Par contre, pour Lille, ils sont passés devant Lorient.
17, 18 Lorient, 19 Nantes et 20e Dijon, quasiment relégué. Mais... On va revenir sur l'autre match, surtout qui nous intéressait vraiment. Ce match nul des Nantais à la Beaujoire face à Lorient.
L'ouverture du score.
Voilà. Marque à la troisième par Randal Kolo Muani sur une frappe ratée de...
Non, sur une passe de Touré, arrêtons.
C'est une frappe ratée d'Abdoulaye Touré. Très opportun, Kolo Muani est là pour reprendre. Nantes, pendant un quart d'heure, a eu quelques occasions, dont Moses Simon à bout portant, Palois de la tête, et puis au bout d'un quart d'heure, plus rien, on éteint la lumière, Nantes a disparu.
Je trouve un peu sévère, parce que je trouve que la première mi-temps est quand même plutôt consistante. Alors forcément, ils ont fait un très très grand...
Oui, 15 minutes, c'est peut-être un peu rapide. Ils ont quand même,
Je t'assure que j'ai vu aussi le match. Au bout de 22 minutes, il n'y avait plus de Nantais. Ils commençaient déjà à essayer de protéger le résultat.
Ah, par contre, c'est vrai que Lorient mérite ce nul.
Non, mais alors, Lorient mérite ce nul. Parce que, après, on voit quand même que la première mi-temps, ils dominent quand même et ils ont quand même 2-3 occasions. Après, t'as un zéro.
Vraiment, en début de match. Après, il n'y a quasiment plus une occasion de la fin de première mi-temps. Les 10 dernières minutes minimum de la 35e à la 45e, Nantes, ils ne mettent pas une seule fois en danger Lorient. Et la deuxième mi-temps, c'est pareil. Et il y a des joueurs Abdoulaye Touré, incapable de faire une passe dans les pieds alors que le mec est à côté de lui.
Mais comptablement, Jean-Marc,
avec le résultat de Nîmes, du coup, il se retrouve relégable
avant-dernier.
Stress. Certes, ils n'ont qu'un point de retard sur Lorient et Nîmes.
C'est deux sur Nîmes.
8 journées, j'ai envie de te dire que les points ils vont être durs à prendre justement contre ceux qui sauver leur vie.
Oui, non, mais ça, d'accord.
Et c'était le cas peut-être face à Lorient. Donc j'ai envie de te dire, comptablement, c'est pas si mal de marquer des points.
Est-ce qu'on peut quand même un petit peu parler du but de Lorient?
Ah, voilà, j'attendais.
Oui. Ah, forcément. Oui.
Magnifique. Là, c'est à 40 mètres.
On peut le qualifier comme ça.
Même Antoine Comboiré a dit à la fin du match: moi, j'ai plus vu ce type de frappe depuis Juninho.
Exactement.
Blas, après le match, a dit que c'était exceptionnel.
Contre Saint-Etienne. Il en avait marqué un comme ça. Mais c'est en première période, il en tire un pareil des 35 mètres. Déjà, Lafond le dévie un peu difficilement. On se dit quand même qu'il a une qualité de pied parce qu'on voit qu'il est très très flottant. Et là, celui-là qui le met. Bon,
et il a été convoqué avec les espoirs, d'ailleurs.
Ouais, c'est normal parce qu'il fait quand même des bons matchs.
C'est clairement mérité.
C'est un très très bon joueur, un très bon espoir. Armand Lorienté.
C'est bien trouvé à Lorienté.
Au moins le quatrième, cinquième coup franc qu'il met comme ça.
Oui, de toute façon, il le dit qu'il s'entraîne tout le temps à l'entraînement.
Non, alors justement, j'écoutais, il a dit il a commencé à arrêter parce qu'il ne veut pas perdre son geste. Donc il arrête un petit peu de s'entraîner pour garder son geste. Moi, sur le geste, il nous rappellera aux anciens de supporters de Nantes, Zoran Vulić, qui était capable de tirer comme ça très très fort de 30, 35, 40 mètres.
Et nous, on a touré.
Là, c'est catastrophique.
Allez, pour compléter ces résultats, j'ai envie qu'on parle du carton des Monégasques à Geoffroy Guichard, 4-0. Monaco, meilleur quatrième de l'histoire avec 59 points après 30 journées. Attention, attention, Monaco qui s'invite dans le... dans la lutte pour la troisième place et la Ligue des Champions. Et là,
même pour le titre, hein, parce qu'on le voit quand même qu'ils sont quand même...
4 points.
S'ils sont qu'à 4 points, ils font le meilleur la meilleure année 2021, c'est la meilleure équipe. On peut légitimement s'opposer, il reste encore des confrontations directes. Ouais. Pourquoi pas? Et Monaco, ils reviennent
bien. Ils loupent leur début de saison, mais avec l'effectif qu'ils ont, normalement, leur place actuellement, c'est deuxième ou premier, voire.
Avec l'effectif qu'ils ont, ils devraient.
On sent qu'ils ont retrouvé une assise défensive qu'ils n'avaient pas en première partie de saison, qui est quand même bien meilleure. Et donc là, ils peuvent légitimement prétendre. Pour moi, il y aura
un bon boulot Kovac depuis qu'il est.
Nico Kovac, c'est un peu l'entraîneur allemand, c'est celui qui fait jouer ses équipes offensivement et tout, et ça se voit. Alors là, maintenant, du coup, ils sont 4 pour 3 places. La Ligue des Champions, sachant que la Ligue des Champions, avec le Covid, c'est
Monaco
c'est
n'en a pas, Lyon non plus.
Il y avait un petit peu un con dans l'histoire.
Lille, éliminé également de la Ligue Europa. Ouais, Paris, attention. Attention, ça revient.
Je pense que le PSG sont lancés.
Le PSG
en Ligue 1,
sera là. Ça va se jouer.
Je pense que ça va dérouler.
Ça va jouer sur la confrontation directe entre Lyon, Lille et Monaco.
Oui.
Et sachant qu'il reste Lille-Monaco, ça a été fait. Il reste un Lyon-Lille et un Lyon-Monaco. Ça peut être.
Et puis Neymar revient dans les bagages des Parisiens.
Du PSG. Donc là,
il y a un ascendant psychologique. Ouais. Voilà, on sait que c'est le PSG.
Ils ont l'habitude.
On sait qu'il y a aussi ça.
Ils ont l'habitude.
Bon, ben on va suivre ça. Allez, on part chez nos voisins étrangers. On commence par des résultats en Espagne avec les résultats des leaders.
Ouais, bah alors le Real qui s'est imposé contre le Celta Vigo, un doublé de Benzema.
3-1, toujours pas rappelé par Deschamps dans sa liste, hein, mais bon.
Oh, on va pas lancer ce sujet,
ça,
franchement.
Je pense que
non, mais il revient.
Mais on peut laisser ça à RMC. Ils font le sujet systématiquement.
Alors là, c'est même pas les journalistes qui font le sujet parce que c'est même Zidane qui ne comprend pas pourquoi.
On n'est pas obligé de reléguer ce que font les Espagnols qui cherchent à nous foutre dans la merde parce qu'ils nous aiment pas. Donc, s'ils peuvent tuer notre équipe de France, ils le feront sans problème. Donc, laissons les journalistes espagnols faire leur boulot. Nous, on va juste donner leur score.
Voilà. Donc, Benzema qui reste exceptionnel en club, qui inscrit encore un doublé. L'Atlético qui s'impose 1-0 avec un but de Suarez. Hommage à Vincent qui nous écoute.
Ouais.
Enfin, j'espère.
Et le Barça qui s'impose 6-1 contre
Très beau résultat à Anoeta. Tout le monde ne peut pas gagner comme
ça. Pas non plus un club. Voilà,
c'est une belle équipe.
Ils sont 4 ou 5e de Liga.
Et avec nos Français, Griezmann, Dembélé appelé en équipe de France.
Comme Griezmann.
Et Messi qui marque aussi.
Messi doublé.
Messi, évidemment. Et Messi d'ailleurs qui était rentré dans l'histoire avec le nombre de matchs disputés avec le Barça.
Il a marqué plus de buts que Pelé.
Aussi, oui. Mais il a fait plus de 700 matchs avec le Barça. Du coup, il a dépassé Xavi, je crois, avec ce match. Il me semble. Dans l'histoire du
d'ailleurs,
Barça.
D'ailleurs, Xavi Alonso.
Xabi Alonso. Alors oui, alors là, c'est un peu.
Oui, bon, on en reviendra après.
On reviendra un petit peu après.
C'est une anecdote.
Ça se passe en Allemagne, tout
voilà.
Ça.
Voilà.
Ok, donc l'Atlético réduit son avance en classement. Plus que 4 points maintenant sur le Barça à 62 et le Real à 6 points à 60. Donc. Oui. Tout est jouable.
C'est ouvert aussi.
L'Atlético qu'on voyait en début de saison et même à la mi-saison,
on les voyait.
Ils pouvaient quasiment avoir 20 points d'avance à un moment. On se disait, ils ont un peu pataugé là ces derniers temps. Ça va être serré encore une fois.
C'est très serré, ouais. Mm. Bien malin. Qui pourra nous dire qui va être champion en Espagne? En Italie, par contre, ça a l'air plus clair.
Ça se décantait, oui, en effet, oui, avec la défaite de la Juve contre Benevento, le promu. Et ils ont perdu 1-0, donc là c'est vraiment catastrophique pour la Juve, élimination des champions.
Pas de scudetto pour les Bianconero, c'est sûr.
Ben oui, il y a 10 points d'avance en Inter.
C'est plus réel. Ronaldo qui a dit d'ailleurs qu'il normalement, ça sort l'année prochaine, il restera normalement à la Juventus, mais il sera en fin de contrat l'année prochaine, donc à mon avis il partira après l'année prochaine.
Oui.
Mais on sent que la Juventus, depuis l'arrivée de Ronaldo finalement, il joue peut-être moins bien parce qu'il y a ce collectif qu'on sortait vraiment de la Juventus. Après il y a les joueurs aussi qui vieillissent, hein. Buffon, bon, il était là avant, Chiellini, Bonucci, c'est Pirlo,
et Ronaldo, s'il est toujours exceptionnel, voilà, c'est...
On sent que il manque une force collective et ils ont pu, je trouve... l'Italie, je pense que ça manque peut-être un peu d'italien avant il y avait énormément de talents, il y avait Marchisio, Pirlo, Bonucci, Chiellini, Buffon et tout.
Maintenant c'est dans beaucoup d'équipes,
il y a Pirlo sur le banc, mais je sais pas s'il va y rester parce que pour sa première saison c'est quand même un échec,
on va les oublier la Juve, hein. On va plutôt parler du bon résultat du Milan AC sur la pelouse de la Fiorentina, 3-2.
Avec encore un but de Zlatan hein, qui ouvre le score. Hein.
15e but de la saison et un but de Ribéry.
Ouais, avec sa célébration qu'on n'a pas compris, mais elle est marrante.
Avec la victoire de Naples 2-0 sur le terrain de la Roma.
Ouais, ils sont toujours pas dans le top 4, mais ça progresse.
Et l'Inter n'a pas joué puisque le match contre Sassuolo était reporté.
Ouais, cas de Covid.
Ouais. Chez l'Inter.
Et 10 points
d'avance.
Mais l'Inter
qui, bon, là...
Ouais, l'Inter va être champion. Fait. La Juve, attention, parce que sa place n'est pas encore garantie pour la Ligue des Champions.
Ça serait vraiment un coup de tonnerre.
Ronaldo
qui ne joue pas la Ligue des Champions.
Qui va prendre...
Ça serait vraiment... je ne sais pas depuis quand il n'a pas joué la Ligue des Champions, Ronaldo, mais...
Ah mais ça fait depuis très longtemps, ouais. Ça va faire parce que 2004-2005 ils étaient encore là, donc c'est à dire que ça fait.
Bon, encore quelques matchs hein, pour le Calcio qu'il nous donne son dénouement. On part en Allemagne rapidement avec les résultats là aussi des leaders. On va commencer par le Bayern.
4-0 face à Stuttgart.
Ouais, bah de toute façon,
4-0
y avait...
triplé de Lewandowski. Alors, on en parle de ce record de Müller.
Il a 35 buts.
Il en est qu'à 5 longueurs et encore beaucoup de matchs.
Ouais, ça, c'est hallucinant. Et alors, ce qui est à noter, c'est 4-0, d'accord, mais 4-0 à 10. Ils ont été à 10 pendant 75 minutes.
L'expulsion d'Alfonso Davies. Mais c'est vrai que ça c'est vraiment très impressionnant. Après, Stuttgart, qui est quand même plutôt bien classé. Hein,
ils ne font pas une mauvaise saison.
On sent que le Bayern, franchement,
c'est des machines. C'est vraiment, quand ils jouent, c'est...
Quand tu remplaces Gnabry, Coman, Sané, machin chouette, c'est impossible à défendre au bout d'un moment. Donc forcément, avec Lewandowski qui marque but sur but cette saison...
Il y a beaucoup de talent offensif dans cette équipe bavaroise.
Par contre, la mauvaise surprise, c'est le match nul de Dortmund à Cologne, 2-2.
Ouais, Dortmund, pour qui la Ligue des Champions s'éloigne. Ouais,
ce qui a mis en colère Hollande, qui est plutôt quelqu'un de calme, et du coup, il est sorti très énervé du match.
Il a jeté son maillot au joueur qui lui avait demandé, enfin, ça avait un peu créé la polémique.
Après, il a expliqué que ce n'est pas par rapport au joueur, c'est vraiment le résultat qu'il avait mis en colère.
Pendant sa progression de carrière, c'est un joueur qui a besoin de jouer la Ligue des Champions. Si Dortmund n'est pas en Ligue des Champions l'année prochaine, je ne pense pas que Hollande va rester dans cette équipe.
D'ailleurs, apparemment... Ça serait quasiment acté avec le Real Madrid, apparemment.
150 millions
Ouais, à peu près.
Alors, par contre, la bonne nouvelle.
180, je crois même d'ailleurs.
Pour le PSG là-dessus, c'est que si Haaland va au Real Madrid,
ils sont sûrs de garder Mbappé, logiquement.
Après,
on parlera des transferts peut-être un peu plus tard. Pour finir avec l'Allemagne, je vous disais qu'il y a les buts, l'Eintracht Francfort qui bat l'Union Berlin 5-2.
Conserve son siège de quatrième de Bundesliga.
Exactement.
Donc, pour se qualifier pour la Ligue des Champions, la compétition à laquelle elle n'a jamais participé. Participé en C1 dans les anciennes formules avant 92, mais jamais dans la formule de la Ligue des Champions. Ça serait peut-être une première pour le club.
Et à noter, la désillusion, c'est le Bayer Leverkusen qui n'en finit pas de reculer avec une défaite à Berlin contre le Hertha 3-0.
Juste une petite info sur la championnat d'Allemagne. C'est côté Borussia Mönchengladbach. On en parlait avec Lucien juste avant. Le nom de Xabi Alonso est évoqué apparemment et serait, avec insistance normalement l'année prochaine, le nouvel entraîneur du Borussia Mönchengladbach.
Ouais. Le Borussia qui a perdu 3-0 qui a gagné 3-0 à Schalke, qui n'en finit plus de perdre, pardon.
Oui, Schalke.
Oui, puisque l'entraîneur des Polonnes, les Poulains, est pressenti pour l'équipe d'Allemagne, je crois.
Non, il va à Dortmund l'année prochaine.
Dortmund.
Marco Rose, pour remplacer Favre.
Voilà, c'est ça.
Maintenant, Favre, il est déjà parti.
Bon, classement, Leipzig s'accroche, mais déjà 4 points de retard sur le leader. Wolfsburg consolide sa troisième place et donc Francfort pour fermer le bon wagon Champions League. Allez, Maëlan, c'est terminé pour le football. On va parler de sport d'hiver. C'est Snowpark.
Pendant ce temps-là, Martin Fourcade est déjà en train d'en terminer. Quelle réaction du patron du biathlon mondial. Le 10e titre de champion du monde à titre individuel pour Martin Fourcade. Champion Fourcade.
Snowpark, l'actualité des sports d'hiver, tous les lundis de 19h à 20h dans Money Time.
Money Time.
Et donc, fin de saison de biathlon, c'était la dernière étape à Östersund en Suède. Suspense pour le globe. Bon, le verdict est tombé. Troisième globe de rang, Jean-Marc, pour Johannes Bö.
J'avoue, on avait fait un petit pronostic entre nous. Bravo à Charles, bravo à Matt. J'avoue qu'avec Lucien, on s'est un peu gaufré. On avait tout misé sur ce tour-là, Homely Grid. Et non. Ça, c'était une superbe course. Ça s'est joué jusqu'à la dernière course de la saison, Lama Start. Et sur le dernier tir, parce que Legrid était devant Johannes Bö sur en début de course.
Ouais, alors, en début de course. Effectivement.
Après les couchers, il était devant.
Voilà, ouais. C'est ça. Et puis, Johannes Bö, qui est un champion, il a mis la pression à ce tour-là, Legrid, et il a fini à une superbe troisième place de la Mastart.
Alors qu'on aurait pu croire qu'il sera revenu sur Simon Détieux et Edouard Latipov, le Russe. Finalement, je pense qu'avec le fait qu'il était un peu...
On y a tous cru sur, après le dernier tir, on s'est dit, il va revenir. Puisque, et puis, en fait,
il a relâché nerveusement.
Voilà. Et puis, surtout, parce que Simon Détieux est un excellent finisseur, on le dit régulièrement. Et il a gagné sa deuxième victoire en Coupe du Monde. En carrière en Coupe du Monde.
Et cette saison,
encore une fois, avec sa médaille qu'il a eue
au championnat du monde,
il fait une super fin de saison. Il est magique sur cette fin de saison.
De toute façon, Simon Détieux, c'est censé quand même être le deuxième ou troisième gros maillon de l'équipe de France de biathlon derrière Quentin Fillon-Maillet. Donc on est vraiment content pour lui parce que là ça fait quand même deux victoires et une médaille d'argent championnat du monde sur le sprint. Ça fait
c'est la meilleure saison de sa carrière.
Parce qu'il a eu des saisons galères quand même. Et là il a 29 ans, c'est un peu un renouveau quoi.
En termes de victoires et de médailles, c'était encore jamais fait pour lui. Puisqu'on l'a dit, deux victoires en carrière, elles ont été acquises
juste après les championnats du monde.
Semaine. Ouais. Deux sur victoires le sprint, en carrière, c'est pas rien parce que le meilleur italien aujourd'hui, Lucas Hofer, pour ce week-end, a aussi gagné une victoire.
Ouais, c'était sa première,
sa deuxième
aussi
en carrière. Donc, il faut pas minimiser de saison pour l'instant de Simon. Ouais. Qui avec deux victoires et une médaille de bronze, se classe parmi les Français.
La petite déception, Antonin Guigonin, qui était en tête au dernier tir.
Vainqueur,
il aurait pu gagner sa première.
C'est dommage.
J'aurais pu gagner.
Parce qu'on a vibré quand même.
Ils ont craqué avec. Il était avec qui à ce moment-là? Il était avec Bénédicte Doll, je crois.
Tous les deux.
Ils ont tous les deux craqué et tout. Mais à noter que pour Simon Détieux, cette saison, on la retient beaucoup plus avec ses deux victoires et sa médaille d'argent au championnat du monde. Pourtant, il fait forcément une saison un peu moins... Il est moins régulier cette saison que les années d'avant, je trouve.
9e.
Mais il fait quand même 9e.
En général, c'est à peu près la place qu'il occupait ces dernières années.
Hein. Ouais, et puis après, ça reste qu'on retient au final.
Mais voilà, il a eu plus de coups d'éclat cette année. Et finalement, ça lui a fait une saison psychologiquement pour le public plus sympa à regarder.
La petite déception pour ce week-end d'Östersund, c'est sur les Français et Françaises qui visaient un titre de globe de la spécialité. C'était le cas d'Emilien Jacquelin
qui
est passé au travers de sa poursuite. Et puis...
les globes de Mastart, mes femmes.
Julia Simon, qui visait le globe...
En tête du classement de la Mastart, ouais.
Et avant la dernière Mastart.
Rate complètement sa Mastart, elle finit 30e sur 30.
Avec des conditions de tir dégueulasses. Hein,
ouais, on est d'accord.
On est d'accord, mais quand même, Tendrevol, qui gagne la Mastart, elle fait 16 sur 20. Elle fait 5 sur 20. Au bout d'un moment...
Là, ça doit être dur. Hein. Ça doit être dur dans la tête.
Je veux bien les conditions... Compliqué, c'est vrai qu'elles étaient compliquées, mais de là à faire 5 sur 20,
c'est vrai que des jours sans ça arrive, mais bon, là c'est.
Mais c'est pas la première fois pour elle. Ouais. Parce qu'en soi, hormis ces deux belles victoires sur la Mastart, du coup, finalement, elle fait sa saison et elle est un peu en demi-teinte.
Elle aura deux victoires, effectivement, pour la consoler, mais 13e au général est vraiment une inconstance en termes de course et surtout sur le pas de tir où elle n'a toujours pas compris comment mettre des balles dans la cible.
On pensait qu'elle nous avait dit qu'elle avait compris. Après, ça se travaille. On lui souhaite de vraiment travailler à fond pour la saison prochaine. On continue à placer des espoirs au vu quand même de ces deux victoires. On retiendra le retour d'Anaïs Chevalier qui est plutôt bon Après, ouais. Elle aurait voulu faire mieux, elle, hein, parce que c'est une éternelle insatisfaite.
Meilleure française, hein, elle meilleure aussi, française. Avec 9e au ranking.
On ne peut pas lui en vouloir, elle ne peut même pas s'en vouloir elle-même. Elle est sur un retour.
Retour de grossesse.
Voilà. Elle n'a pas fait la saison dernière, donc là, cette année et tout, c'est sa reprise. Elle fait quand même 9e au classement général. Ça reste quand même quelque chose. Elle fait des médailles au championnat du monde, elle fait des podiums.
Dis qu'aux Jeux Olympiques la saison prochaine, elle sera là en leader de l'équipe de France.
Bah, je pense que l'année prochaine, si elle retrouve avec un tir qu'on lui connaît des années d'avant, elle peut légitimement, potentiellement, jouer le classement général de la Coupe du Monde. Parce qu'elle a le niveau de ski pour, elle a le tir vraiment très correct pour un retour. Donc à mon avis, l'année prochaine, elle peut légitimement prétendre à ça.
Ouais. Et puis bah, pour les autres françaises, je suis désolé de te le dire, Anaïs Bescon n'a pas annoncé sa retraite. Ne l'enterre pas, elle sera peut-être aux Jeux Olympiques la saison prochaine.
Et bon, on lui souhaite.
Exactement, exactement.
Non, moi j'ai envie qu'on revienne sur Quentin, qui lui-même avait un peu le masque hier à côté du podium.
Ah bah oui,
ouais, forcément.
Et il l'a répété, c'est dommage qu'on ne mette pas en lumière le deuxième et le troisième de la Coupe du Monde, qu'on les invite à monter sur le podium. Il a rappelé que lui, c'était la troisième année consécutive qu'il y était sur ce podium, mais pas physiquement. Et c'était un peu son coup de gueule hier en zone mixte.
Ah, c'est vrai qu'en vrai, on pourrait faire des globes d'argent et des globes de bronze en soi pour les deuxièmes et troisièmes. Alors, effectivement, c'est les sports d'hiver. Mais parce que ça récompense quand même c'est un classement général, année.
Pour moi, il a fait une belle saison. Après, il aura
derrière les Norvégiens, c'est lui qui a le meilleur bilan. Hein. On en rappelle un 7 pour Sturtevallgrid et 4 ou 3 seulement. Ouais, 3 puisqu'il n'en a pas gagné ce week-end, Johannes. 3 pour Johannes Bö, avec 3 victoires, Quentin mérite, au nombre de victoires en tout cas, sa place sur le podium.
Mais on se rend compte que finalement, il n'est qu'à 100 points
En biathlon, ça fait beaucoup d'écart, puisque tu sais que par rapport au ski alpin, où il y a 20 points entre le premier et le deuxième, et encore 20 entre le deuxième et le troisième, en biathlon, il n'y a que 6 points entre le premier et le deuxième, et 6 entre le deuxième et le troisième. Donc 100 points, en fait, ça représente beaucoup d'écart.
Ouais, mais alors,
par rapport à la
effectivement, ça fait beaucoup. Mais on se rend compte qu'il est pas non plus si loin. Ça fait sur le nombre de courses disputées au fil de la saison, ça fait quelques places à prendre supplémentaires et tout. Et il pourrait se battre l'année prochaine pour le gros. Alors effectivement, c'est un truc qui fait la différence et ça fait 3 fois qu'il fait 3e. Donc est-ce qu'il a atteint un plafond de verre, on ne sait pas, mais on espère pour lui.
Non, moi je crois pas. J'ai hâte de la saison prochaine.
Dans avec 250 jours.
C'est ça.
J'allais dire.
Et avec une épreuve au Grand Bornand, hein. Nous l'oublions pas.
Oui.
Donc les garçons, vous êtes missionnés pour vous débrouiller. S'il n'y a pas le Covid, d'y aller.
On fait un appel au Grand Bornand.
Allez.
Bon, et Jacques-là, une saison avec des hauts et des bas, mais ça, hein, on commence à être habitué.
Jacques-là, c'est toujours pas de victoire en Coupe du Monde, mais 2 victoires en championnat du monde et la pensée.
Eh bien, ça tombe bien, c'est les Jeux Olympiques, donc il va ramasser les médailles.
Mais c'est ce qu'on lui demande.
Allez, on va passer à l'alpin.
Oui.
Et le gros globe pour Pinturo, donc
enfin.
24 ans après Luc Alphan.
Il est enfin récompensé.
Bon,
il y a eu du stress.
Comme dirait Benoît Paire.
Il y a eu un coup
de brouillard. Il y a eu un coup de brouillard.
Les épreuves de vitesse, on rappelle.
Chanceux. Les dieux du vent et les dieux de la météo.
Annulation de la descente et du super G, un mercredi et jeudi.
Qui était sans doute favorable en plus à Odermatt.
Ouais, mais ça lui a coupé les jambes. Ça lui a coupé les jambes à Odermatt.
Odermatt, là, il les a.
Quand il a vu ses annulations, il savait déjà que c'était.
Mais il sait que l'année prochaine,
Du coup, sur les épreuves restantes, Pinturo,
il a pris par contre 160 points. Donc, on pourra dire ce qu'on veut. Au final, il gagne avec 190 points d'avance à peu près le globe.
Le jour de son anniversaire, de ses 30 ans.
Donc, c'est beau.
Pour les mauvaises langues, il aurait fallu que Odermatt gagne le Super G et fasse deuxième de la descente.
C'est compliqué parce qu'on sait qu'il y a d'autres spécialistes comme Krischmayr et tout qui sont un peu meilleurs. Mais après, on ne sait pas jamais ce qui serait passé.
Non,
ça se trouve,
il
serait passé avec les deux, les descentes et le Super G, il serait passé devant Pinturo. Pinturo aurait eu la pression. Et à ce moment-là, peut-être que Pinturo aurait fait n'importe quoi. Mais ça avec
un
des surfaits le monde.
Qui risque de le décomplexer et qui peut en amener un deuxième l'année prochaine.
Et puis peut-être des médailles aux Jeux Olympiques.
Oui,
c'est
il en parle.
C'est un objectif pour lui, effectivement.
Puisqu'il n'a jamais été titré aux Jeux Olympiques.
Surtout la médaille d'or qui qui va compter.
Et à noter qu'il a 34 victoires en Coupe du Monde, hein, maintenant dans sa carrière. Il dépasse Bode Miller. Il dépasse Bode Miller. Bon, il est encore loin de... Voilà, de
Ingmar Stenmark, qui était solide en
86, Hirscher qui a 8 gros globes. Bon, voilà,
il mais meilleur de... français de toute façon de l'histoire en termes de victoires en Coupe du Monde. On attend pour 12 victoires, Luc Alphand, en Coupe du Monde.
Mais à noter quand même Clément Noël qui fait une bonne fin de saison.
C'est ce que j'ai envie de dire.
Une victoire, une deuxième place.
Ouais, c'est beau. Donc,
L'équipe de France dans les épreuves techniques a plutôt été au rendez-vous cette saison. Clément Noël, on l'a dit, hein, des victoires.
Et deuxième
au slalom. Pour Mathieu Fèvre, aussi, en géant. Hein,
et avec
évidemment.
Des médailles d'or au championnat du monde.
Et ensuite, le globe. Favreau des places d'honneur là aussi pour ce skieur, ce géantiste. Donc le groupe technique est au point. On aimerait bien qu'il en soit de même chez les filles. Quoi.
Et on saluera Jean-Baptiste Grange qui a pris sa retraite.
Ouais. Ah oui.
Le double médaillé du monde de slalom.
Et à noter, juste, il y a une phrase qui m'a marqué.
JB.
Qui m'a marqué de la part de Pinturo qui disait en ski alpin, le cristal vaut plus que de l'or. Et j'ai trouvé ça... Oh,
c'est
sympa,
c'est ce qu'a dit aussi Johannes. Hein, après son globe, c'est quand même le trophée qui est le plus important dans la carrière d'un sportif. C'est le classement général de la discipline. Ouais.
Bon, qu'est-ce qu'on fait, Orange les skis, ou vous avez encore une petite info?
Non, allez.
Non. Mais allez,
il est temps de parler de handball, Mylan. C'est Hashtime.
Hashtime. Money time. Toute l'actualité du HBC Nantes par notre bande d'experts. Débrief, infos, interview. Hashtime. Money time. Money time, votre émission sportive tous les lundis de 19h à 20h sur Prune 92 FM et sur prune.net.
Et la semaine du H avait démarré mercredi avec la réception de Créteil. Les garçons, vous étiez à la H Arena pour une victoire serrée des violets.
Ouais, alors c'était le match en retard de la 7e journée, donc une victoire serrée, 27-25. Mais bon, je sais pas ce que t'en penses Jean-Marc, mais bon, c'était un match maîtrisé, ils ont pas trop forcé. Je pense qu'ils sont quand même réservés pour samedi, on va en parler après, le gros match face à Nîmes. Toi, t'en penses quoi, Jean-Marc? Non,
c'était un peu le sujet qui était posé en conférence de presse à Grégory Cojean, l'adjoint d'Alberto Entrerios. Comment ils avaient abordé ce match un petit peu... Est-ce que c'était un peu trop à la cool? Il nous a dit que non, en fait, mais comme les joueurs n'étaient pas sur les mêmes niveaux de performance entre ceux qui étaient partis jouer avec leur équipe nationale,
c'est ça aussi,
les blessés et les autres, du coup, c'est ce qui nous a donné un match assez acharné.
Ouais. Alors le match le plus important c'était contre Nîmes, hein, qui évidemment qui était juste derrière au classement, ils étaient 5e, on était 4e. Et le H s'est imposé là-bas, hein, 31-27. Donc c'est une très belle victoire, ils ont quasiment mené tout le long du match en fait.
C'était
hein,
pas là-bas, c'était à la H Arena.
C'était à la H Arena, pour
mais
là
tu ne pouvais pas y aller, et moi non plus, c'est aller, pour
c'est
ça.
Pour ça voilà. Avec un tellement pas l'habitude. Oui. Et un festival des ailiers, ouais. Balaguer.
Bala et Rivera.
8-9.
8-9 pour Bala et 7-11 pour Rivera. Ouais.
Et côté Nîmois, les 6 buts de Sanad et surtout les 19 arrêts à 40% de Rémi Desbonnets, ça n'aura pas suffi hein, à changer la donne.
Donc 2 victoires dans la semaine et puis une bonne nouvelle vous est arrivée hier en provenance d'Aix avec la magnifique victoire de Saint-Raphaël, 28-26 sur le parquet d'Aix. Ils menaient déjà 14-12 à la mi-temps et surtout à la 45e, il y avait 24-19 pour Saint-Raphaël.
Aix est bien revenu. Oui. Mais voilà, Saint-Raphaël avec un arrêt magnifique de Popescu sur
penalty a été démentiel dans ce match.
Et alors, il a quel âge lui là? Il est...
Oh, il est pas jeune Popescu.
Ah, il a 40 hein, je crois hein, Popescu. Hein,
et super parti et du coup super nouvelle pour Nantes. Hein. On rappelle au classement PSG toujours en tête, Montpellier deuxième 28 points. Et Nantes, seul troisième avec 24 points.
On recolle sur le podium.
Limoges et Aix sont derrière avec 22 points. On a enfin dépassé Limoges.
Ouais. Alors par contre, je crois hein, qu'on est devant Aix de 2 points, mais Aix a un match en moins, je crois.
Oui, Aix a un match en moins.
C'est ce que j'allais dire. Mais au moins, avant, ils auraient eu 2 points d'avance. Maintenant, ils peuvent juste nous rattraper.
Voilà,
donc,
c'est ça.
Après, d'ailleurs, ça se passe comment la différence de but? Parce que là, dans son, on voit que Nantes a quand même plus 24, plus 23 par rapport à Aix.
S'il y avait égalité.
Bah c'est Nantes.
Donc c'est Nantes. Ouais. Donc pour l'instant, Nantes.
Cette troisième place, elle ne sert à rien. C'est la deuxième qu'il faut aller chercher.
Ouais, hein. Alors elle va être dure à aller chercher.
On est à 4 points de Montpellier.
Voilà. Ça va être dur
si
à aller chercher.
Si tu veux aller en Champions l'année prochaine, ou tu la gagnes.
Il y a un il faut au moins faire de l'Europe. Oui. Mais c'est obligatoire pour Nantes.
Ça ira jusqu'à la 5e place.
Je réserve déjà ma place pour le 3 juin, je crois, ou le 6 juin, le dernier match, la 30e journée.
Nantes-Montpellier.
Ça peut se jouer là. Ça va se jouer là, je vous le dis.
Nantes qui aura un match à Tremblay cette semaine, je crois.
On ne devrait pas trop.
Alors je crois qu'ils jouent samedi à Cesson.
Ah, c'est Cesson d'abord.
Cesson. Ensuite, le 31, 8e de finale de Ligue des Champions contre Kielce. Et ensuite, ils jouent Saint-Raphaël le 4 avril.
Je crois qu'il y a Tremblay avant.
Tremblay qui sera la prochaine destination de notre portier.
Cyril Dumoulin.
Qui l'a annoncé sur les réseaux cette semaine. C'était plus un secret de polichinelle. Il rejoindra le club francilien pour 3 saisons à la fin de la saison.
Et ça sera peut-être en Pro League.
Peut-être, mais il n'y a pas que lui. Il y a Gourbindo aussi qui va partir au Vardar. Oui. Augustin Hussein qui part à Stuttgart.
Oui.
Et Figueras à Chartres. Et au niveau des arrivées, on a Marchan, le pivot espagnol, et Portela, l'ailier droit de Tremblay.
Et le russe dont je ne me rappelle jamais du nom, du Mechkov-Brest.
Oui, et du coup, tu m'avais dit aussi le gardien
suédois. Oui, évidemment, le gardien islandais, Algrimsson.
D'ici là, on aura peut-être des nouveaux noms en provenance.
On aime les nordiques, apparemment, le gardien.
Voilà. Tout petit mot des filles qui étaient en match amical, donc France-Danemark 2 fois. C'était jeudi et samedi.
2 victoires pour nos Bleus.
Oui, alors, mais je vais relativiser un tout petit peu. La France qui l'emporte 26-22 jeudi.
Mais la c'était France pas un match de prépa pour Tokyo, le premier ?
Si, mais les deux. Tokyo. C'est juste des matchs amicaux. Non, mais c'est prépa amicaux. C'est pas dans le cadre d'un championnat. C'est tout ce que je voulais dire, Maëlan. Donc, 2 matchs amicaux contre le Danemark. Donc, le jeudi, victoire 26-22, mais la France a galéré jusqu'à la 50e minute, ne prenant de but d'avance qu'à la 57e minute, pardon. Le Danemark ayant mené jusqu'à la 40e, donc c'était pas évident.
Oui, ils ont eu du mal à trouver quand même les solutions. Comme à son habitude, Olivier Crumbles a beaucoup fait tourner quand même pour essayer de trouver la bonne équation.
Sauf peut-être Alexandra Lacrabert qui a beaucoup trop joué.
Elle joue en championnat, il y en a certaines qui jouent en Ligue des Champions.
C'est surtout une équipe très très jeune chez les Danoises. Et puis le deuxième match, victoire 23-22.
Ouais, victoire d'un but, elles avaient pourtant le match en main, elles se sont fait peur, trou d'air en début de deuxième période. Elles ont dû galérer, mais force de caractère, elles en ont, puisqu'elles s'imposent d'un but.
Les bonnes nouvelles, c'est que nos gardiennes, donc Amandine Leno n'était pas là, elle était laissée au repos. Très bon taf de Cléopâtre Darleux en première mi-temps du premier match, et derrière Laura Gloser, super, elle est revenue. Catherine Gabriel, elle a très peu joué, elle est rentrée sur le deuxième match, mais elle a très très peu joué, donc pour elle, à mon avis, il n'y aura pas de Tokyo.
Ouais, c'est
sachant
difficile
qu'à
de s'imposer.
Tokyo,
ouais.
Je précise, il n'y aura que 14 joueuses plus une, donc 15 joueuses en tout, donc il n'y aura seulement que 2 gardiennes qui partent à Tokyo, donc Amandine Leno ou Cléopâtre Darleux ou Laura Gloser.
Enfin, la bonne nouvelle, c'est que nos 2 équipes masculines et féminines seront au Japon. Allez, on enchaîne avec les scores des clubs nantais, Maëlan. C'est score en stock.
Money time. Score en stock. Résultats, analyse, classement et agenda des clubs nantais. Score en stock. Money time. Money time, votre émission sportive tous les lundis de 19h à 20h sur Prune 92 FM et sur prune.net.
Et on commence avec le volet, les boys du NRMV qui assurent leur maintien, Lulu.
Ouais, alors il aura fallu attendre l'avant-dernière journée du championnat pour que les boys assurent leur maintien. Ouais, c'était un stress permanent, mais voilà, ils ont gagné face à Lanterne Rouge Ajaccio, 3-7-1. Donc ils prennent 3 points, c'est seulement la 2e fois de la saison qu'ils prennent 3 points sur un match. Hein. Donc ils sont à 21 points, 12e devant Nice, 13e à 18 points, et Ajaccio du coup qui descend. Donc voilà, c'est un maintien dans l'élite pour la 12e saison consécutive. Mais Médéric Henry, à notre micro, c'est un peu difficile pour lui. Il nous dit que c'est bien qu'il soit maintenu, mais c'est assez frustrant.
On l'écoute.
Alors Médéric, c'est bon, le maintien c'est fait, c'est un soulagement je suppose ce soir?
C'est un sacré soulagement parce qu'on avait peur de... Enfin, c'était hyper important, après c'était, ça aurait été décisif sur la fin de les derniers matchs. Et les derniers matchs franchement on avait aucun pouvoir de changer la donne. Il suffit qu'Ajaccio gagnait contre Tours, c'était perdu, Nice pareil je crois. Donc c'est un soulagement, ça veut dire que la semaine prochaine on va pouvoir y aller plus tranquillement, moins stressé et se faire plaisir à Chaumont quand on va aller jouer là-bas quoi.
Ah là, cette fin de saison vous avez montré que vous étiez capable de faire des très belles choses. Donc c'est positif, mais est-ce que c'est un peu frustrant aussi de se dire que du coup ça aurait peut-être pu être une saison, une autre saison quoi.
Ah mais c'est ça, c'est hyper frustrant. Parce que je pense qu'on a, on a vraiment montré plus de caractère sur les derniers matchs. Montré plus d'envie, montré plus de... On était plus propre. Franchement, il y avait presque tout changé, que ce soit en défense, au service, on a été un peu plus efficace. Il y a quoi même les balles de transition, finalement, des balles que d'habitude, on faisait un peu en... Je sais pas comment dire... En stress, enfin, on n'arrivait pas à se poser dessus et tout. Et là, franchement, tout était plus propre. Après, on va pas se mentir, Ajaccio, c'est quand même une équipe qui est en pareil, qui est dans la même, qui était dans la même position que nous, donc en stress. Il y avait beaucoup de trucs qui se jouaient, donc je pense qu'on n'a pas joué relâché totalement, que ce soit pour les deux équipes. Ça s'est senti, il y avait de la tension, hein, de carton rouge, pas pour rien. Et je pense que la diff, ça s'est fait que peut-être que nous, avec les derniers matchs qu'on a fait, un peu plus de confiance. Ouais.
Et c'est quand même de l'émotion, soit on arrive à passer au-dessus la frustration de la saison et profiter.
En vrai, c'est compliqué. On est content d'avoir gagné, ça c'est sûr, mais c'est sûr, il y a cette frustration, ça c'est sûr. Okay. Elle est là. Ouais.
L'année prochaine, t'es toujours ici, toujours en Nantais?
C'est une très bonne question. faut discuter, on verra bien ce que veut faire le club déjà. Donc il y a beaucoup de changements, donc à voir s'ils veulent nous garder, on verra.
Allez, profite bien.
Donc, dernier match qui aura lieu à Chaumont. Pour remercier Fulvio Bertini et on pourra dire bienvenue à Hubert Hainaut.
Mais oui, et Chaumont, alors ça va être un match comme le disait Médéric. Hein. Chaumont, ils sont déjà qualifiés pour les playoffs. Le NRMV, comme Médéric l'a dit, et Steve Perronnet, le libéro, me l'avait dit aussi, ils vont profiter toute la semaine du maintien, ils vont fêter ça. Ils vont arriver à Chaumont avec ce qui reste. Quoi. Donc bon, on ne s'attend pas à un grand match là-bas. Et l'année prochaine, il y aura beaucoup de départs à la fin de la saison. Là. Donc... Fulvio Bertini, hein, comme tu l'as dit, remplacé par Hubert Hainaut, Sergio Nodal, capitaine, qui arrive en fin de contrat, Léo Meyer, Lucas Groc, les plus jeunes, Amaury et Offray, Célestin Cardin, Médéric Henry, qui ne sait pas non plus son avenir, et Borja Ruiz, qui, ça a été annoncé aujourd'hui, il part dans le club espagnol, il retourne sur ses terres d'origine à Las Palmas, pour disputer les playoffs.
Aux Canaries, il va en vacances.
Ouais, un nouveau chapitre qui s'ouvrira l'année prochaine voilà. Pour les boys du NRMV.
On parle des filles.
Complet, oui, Jean-Marc, le VBN qui consolide sa troisième place au classement.
Exactement, une victoire 3-1 face à Chamalières. 25-15, 19-25 perdu dans le deuxième, 26-24 troisième et 25-21. Un Cyril Hong pas content du tout de ses joueuses qui pensaient un petit peu en vacances. Je n'ai pas pu vous ramener le son parce qu'il y avait trop de bruit. Mais bon, l'important était de s'imposer face à Chamalières.
Ouais, c'était les points qui comptaient. Allez, au chapitre des victoires, on part sur le hockey sur glace avec la bonne nouvelle et la première place des Corsaires.
L'équipe qui nous fait le plus rêver en ce moment à Nantes, les Corsaires, qui se sont imposés 5-3 face au Drakkar de Caen, avec deux buts de Léveillé, un but de Dufournet, un but de Perron-Fontaine, un but d'André. Mauvaise nouvelle un petit peu, c'est les 18 minutes de pénalité pour les Nantais, c'était beaucoup. Les Nantais qui vont jouer mercredi, ils reçoivent Brest, c'est la première journée en match en retard. Et samedi, un autre derby, ça sera à Cholet.
Ouais, et on avait Martin Lacroix donc en zone mixte. Pour
exactement,
une...
on va l'écouter.
Je pense que dans ce match-là, je pense que c'est un match où je pense que les gars se sont... On a été excellents, selon moi, à des avantages numériques. On a été drôlement pénalisés ce soir. J'ai trouvé... je pense qu'on avait le match quand même dans l'ensemble en plein contrôle. Même à 3-1, on était bien. Puis là, ben, ça aurait pu être dangereux au troisième tiers de, quand on a pris les 5 minutes de pénalité. Puis après ça, on s'est ramassé à 5-3. Les joueurs ont fait beaucoup de sacrifices, ont bloqué beaucoup, beaucoup de tirs. Puis... Non, je pense qu'il y a eu quand même... évidemment que ça a été chaud jusqu'à la fin, parce que quand une équipe revient, ils sont revenus avec un but en power play, puis ensuite un but en cage avec, à 6-5 vers la fin. Ça aurait pu évidemment être dangereux, mais je pense qu'on mérite sincèrement ce match-là, puis il n'y aurait pas eu de justice si on n'avait pas gagné, si on n'avait pas pris les trois points ce soir. Mais après, Cholet n'a pas démérité. Cholet, ça quand même, ils sont défoncés, on joue jusqu'au bout. Je pense que si on n'avait pas pris cette pénalité-là, mettons, au troisième tiers, je pense que jamais qu'il serait revenu. Qui serait revenu dans le match de cette façon-là, parce qu'à 5 contre 5, j'ai trouvé qu'on était en plein contrôle, oui. En plein contrôle du match à 5 contre 5. On avait beaucoup la rondelle, on a mis quand même beaucoup de pressing. Puis après, ben, c'est sûr que. Voilà. Mais dans l'ensemble, je suis quand même très content. Puis c'est jamais des matchs faciles, les derbys contre Cholet. Puis ce qui est bien, c'est qu'on n'a jamais été mené au score. On a mené 1-0, c'était venu 1-1. Après, on a pris les devants. Puis. On a suggéré jusqu'à la fin, fait que c'est bien. On a bien fait ça dans l'ensemble, puis c'est un beau 3 points qui fait du bien. Voilà.
Toi qui étais devant, est-ce qu'elle est sévère, la sanction de Brenton?
J'ai pas vu la...
J'ai dû me gourer dans l'interview que j'ai envoyée, pardon. Je suis pas devant, hein. Excusez-moi. Désolé, c'est pas la bonne interview. Pour en finir avec les sports locaux, juste un petit mot de basket. L'Hermine se déplaçait à Nancy et pour essayer d'accrocher une place sur le podium, mais défaite des Nantais 68-56. C'est dommage, ils ont vraiment juste raté le troisième quart-temps en perdant ce quart-temps 13-5 avec seulement 28% d'adresse. Nantes qui se déplacera vendredi à Saint-Chamond. Et pour les filles, après avoir joué Charnay, c'était le dernier match, une victoire 79-59, elles reçoivent Bourges dimanche.
Allez, ok, on va conclure avec le reste de l'actu, Maëlan, c'est Multizone.
Money time. Multizone, tout le reste de l'actualité sportive détaillé par la team. Multizone. Money time. Money Time, votre émission sportive tous les lundis de 19h à 20h sur Prune 92 FM et sur prune.net.
Oui, dans Multizone, allez tout de suite, un mot de rugby, c'est le tournoi, 5e journée du tournoi Destination et la France qui n'a pas encore gagné ce tournoi mais qui déjà empêche les Gallois, Charles. Du Grand Chelem.
Et oui, c'était un petit peu ce soir ou jamais, samedi. Et finalement, la France, au bout du suspense, a réussi à battre les Gallois, les empêcher du Grand Chelem et rester dans la course à la potentielle victoire de ce tournoi Destination.
Ouais, les Bleus quand même dominés, hein, surtout en deuxième période, mais qui trouvent du caractère, hein, pour l'emporter.
On a senti que les Gallois, offensivement, dès qu'ils avançaient, ils avançaient. Hein, la défense française, on les a sentis un petit peu pris de court à chaque fois. Et en plus, on sentait qu'il y avait 30-20 au moment du carton rouge de Paul Willemse, le Français, à la 68e. Alors on s'est dit, bah là, le carton rouge, c'est fini. Les Français ne reviendront jamais. Mais que nenni, 4 minutes plus tard, premier carton jaune pour un Gallois. 2 minutes après, c'est un deuxième carton jaune pour les Gallois. Ils joueront à 13 jusqu'à la fin du match. La France est en supériorité numérique. Et là, on a senti les Français survolter et qui sont allés planter 2 essais coup sur coup. 77e, Charles Olivon, le capitaine, qui fait un match extraordinaire, exemplaire, qui le met en pick and go à 5 mètres de la ligne. Puis le dernier, là, 82e, c'est Brice Dulin qui délivre. Hein, on va sur les extérieurs et Brice Dulin qui délivre l'équipe de France.
Ce qui est impressionnant dans cette équipe, c'est que tu l'as dit, hein, on le savait qu'ils étaient capables de, voilà, de jouer en pick and go, démêler devant la ligne. Mais là, le dernier essai, c'est une longue phase de jeu et ça, on n'avait pas forcément l'habitude avec l'équipe de France. Ça dure 1 minute 38 quand même avant l'essai de la victoire. Donc voilà, ça fait plaisir de voir cette équipe-là. Elle est très très offensive. On a l'impression vraiment que voilà, ça peut marquer partout, quoi. Il y a une force offensive, je pense, qui fait peur.
Et puis, quel que soit le dénouement, tournoi réussi pour les Bleus, hein, qui auront battu les Gallois et les Irlandais et s'incliner à Twickenham de 3 points dans un match
très serré, pas passé loin de la victoire.
Et qui joueront vendredi
l'Écosse.
21h, un bonus offensif pour les Bleus.
Bonus offensif plus 21 points.
Voilà.
Ouais, parce qu'au nombre d'essais marqués, on est derrière les Gallois.
Voilà.
Donc là, ça va être, va falloir en mettre. Et je pense que l'équipe de France peut le faire. Mais
ça va être compliqué. Parce que nos dernières confrontations contre les Écossais étaient assez serrées quand même.
Bah d'ailleurs, l'année dernière, on
perd
une
fois et on gagne une autre fois.
Oui, entre les deux.
Très serré, je crois, 22-15, quelque chose comme ça.
C'est en France ?
Oui, au stade de France.
Donc là, ça peut aussi jouer un avantage psychologique.
Bon,
pour
l'Écosse
les
n'est plus l'Écosse qu'elle était il y a 20 ans. Hein.
Mais Jalibert sera forfait. C'est Tamac qui remplace à l'ouverture.
À suivre ce week-end.
Remplacé par Carbonel dans le groupe.
À suivre ce week-end de l'Ovalie encore. Et pour conclure, eh ben, on va parler de la Primavera. Hein. Samedi, la première classique de cyclistes de la saison, c'était Milan-San Remo.
Exactement, la première grosse et vraie classique de premiers cinq monuments annuels qui était...
avec un super plateau. Hein.
Avec un super plateau, Alaphilippe, Van Der Poel, Van Aert,
Arnaud Démare.
Tous les gros noms étaient ici... ici à Milan jusqu'à San Remo et on a finalement c'est une grosse cote qui a gagné, c'est pas celui qu'on
c'est
attendait.
C'est un Belge mais pas le bon. Hein.
Exactement.
Qu'on attendait.
Un c'est... Belge succède à un autre Belge puisque donc Jasper Stuyvesant succède à Wout van Aert.
Exactement, Jasper Stuyvesant qui gagne son premier monument à 28 ans donc ça reste une première belle monument à son palmarès. On le connaît, hein, c'est un coureur de classique de la Trek Segafredo. Il avait fait quand même plusieurs bons résultats. Il avait gagné Kuurne-Bruxelles-Kuurne en 2016, le Het Nieuwsblad en 2020. Il avait fait 4e et 5e en 2017-2018 sur Paris-Roubaix. Donc on sait qu'il était là, que ça reste quand même un bon coureur de classique. Mais de là, aller venir battre les gros noms du...
Surtout que le plateau nous annonçait un final splendide avec Mathieu Van Der Poel, Wout Van Aert et Julien Alaphilippe, qui étaient tous les trois dans le groupe de tête au sommet du Poggio, qui devaient se disputer... la victoire dans les rues de San Remo, malheureusement désorganisé complètement. Ce groupe s'est fait avoir par le Belge Stuyvesant.
C'est ça, parce que dans le Poggio, ils arrivent à un peu se détacher en haut du sommet, mais on sent qu'ils sont pas vraiment.
Pidcock qui prend la course à son compte et qui essaye de semer tout le monde dans la descente. Mais ça a peut-être un peu justement à ce moment-là désorganisé le peloton. Enfin, le groupe de tête. Et Stuyvesant.
Et à 3 km, Stuyvesant qui profite un peu d'un moment de latence finalement, un moment où on se regarde un petit peu pour qui va prendre les choses en main.
Ouais, et puis sans équipe de sprinteurs, on revient pas sur un homme échappé. Caleb Ewan arrive quand même
à faire deuxième
devant Wout Van Aert.
Mathieu Van Der Poel 5e. Et le premier français, Anthony Turgis de la Cofidis qui fait 10e. Ça reste un bon coup.
Et aujourd'hui, c'était le tour de Catalogne qui s'est lancé avec énormément de favoris. Et pour conclure, un mot de golf, c'était le Honda Classic à Palm Beach. Victoire pour l'Australien Matt Jones à 40 ans. Alors cette année, beaucoup de quarantenaires qui gagnent des tournois sur le circuit américain. Sergio Garcia, Stewart Singh. L'Australien s'impose en moins 12, 5 coups devant l'Américain Hagi. Notons que le leader, après le week-end, s'est complètement écroulé. Hein. Aaron Wise qui finit à moins 7, lui qui était à moins 14 au début du week-end. Voilà.
Un dernier mot de Sport Auto pour vous dire qu'aux 12 heures de Sebring, c'était la 69e édition. La victoire du trio français Sébastien Bourdais, Loïc Duval, Tristan Vautier sur Cadillac. C'est juste la deuxième fois que ça arrive qu'un trio français gagne. 13e victoire pour des Français. Et en GTLM, c'est Mathieu Jaminet qui l'emporte sur Porsche 911. Et c'est tout ça pour vous dire que ce week-end reprend la Formule 1 et la moto.
Pour nous plus grand plaisir. Et pour Fabrice, évidemment, grand fan de sport mécanique.
On fait un gros bisou et évidemment. On lui dit à très bientôt. Voilà, on en a terminé de cet épisode de Money Time. On vous souhaite une bonne semaine et on vous dit à la semaine prochaine.
Salut à tous.
À la semaine prochaine. Ciao, ciao.